This is CKCU Literary News, les actualités littéraires dans le monde francophone.
Voici de Montréal.
Une émission consacrée à la nouvelle littérature québécoise, fiction, poésie et essais, une coproduction du webzine La Recrue du Mois.
Et de CKCU Literary News, réalisée par
Lucie Renaud
et Hanska Auger-Ruprecht.
Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission des actualités littéraires sur CKCU Ottawa. Aujourd'hui, nous parlons poésie québécoise, jeune poésie québécoise, avec deux auteurs de premier recueil. Tout d'abord, Mélina Bernier avec Amour debout et Alexis Morin avec Chien de fusil. Alors plutôt que de leur demander de se présenter en parole ou de leur poser une question tout de suite, j'aurais envie de leur demander de se présenter en mots à travers un extrait de leur recueil. Alexis?
Je ne dérangerai plus rien, plus personne. Je suis arrivée, je ne bouge plus. Chaque geste sera le plus précis, économique et là. Je rallonge le temps. Le bois devient chaque jour plus tranquille. Personne ne me retrouvera. Je le sentirai des heures d'avance si on essaie et je me cacherai. J'irai marcher. Je saurai quand revenir, mais en ce moment, pas de danger. Personne ne pense plus à moi. Je suis trop loin. Leur malice voyageait directement vers moi, mais maintenant, elle ne passe plus, sauf quand tu arrives. Rien de ce que je décris n'existe en ta présence parce que tu touches aux autres. Ce qui te suit pendant ta traversée de mon côté, c'est terrible. Même l'eau ne peut laver ça.
Merci, Alexis. Mélina, donc un extrait de Amour debout, paru à la Peuplade en mars 2012. Après l'orage, il n'y a plus de mission, qu'une douceur désenchantée. À quand l'éveil? Visiter œuvre d'art, petits fruits sur la table d'été, rire. Aujourd'hui, d'une bouche à l'autre, un pain pétri. Le geste, déployé mais humble. Voie lactée, amour debout, nœud de doute, appelle ce paysage halluciné. Merci. Alors, pour en 2012-2013, écrire de la poésie, il faut quand même avoir une certaine volonté de peut-être de s'extraire d'un certain conformisme. Pourquoi écrire de la poésie aujourd'hui, Mélina?
Je pense que c'est peut-être pas une question de volonté de s'extraire du conformisme étant habitué à la marge, en fait. Mais c'est plutôt un désir, je pense, un désir de toucher l'autre. Avec une parole peut-être différente, une parole qui sort un peu d'une certaine rationalité, puis qui ose, une parole audacieuse qui va tenter de toucher la sensibilité, puis une certaine vision de la beauté du monde, en fait.
Alexis, pour toi?
C'est un désir de densité, puis d'économie, en fait, langagière, le désir de dire le plus de choses possibles avec le moins de mots possibles, quitte à retirer tout ce qui peut sembler superflu, quitte à retirer tout ce qui peut avoir l'air explicatif, et quitte à laisser des trous, des blancs.
Donc ces trous, ces blancs, est-ce que ça serait l'endroit où le lecteur peut s'immiscer, transformer tes poèmes, ses poèmes, ou s'identifier de cette façon-là?
Ben, à vrai dire, pas mal, n'importe quel contrat de lecture fonctionne de cette façon-là, donc peut-être que oui... Là, en fait, le moins on a d'explications, le moins il y a de contenus qui sont plaqués puis qui servent vraiment à s'assurer que le lecteur nous suit. Le plus libre ce lecteur-là est, le plus intelligent il va se sentir aussi après. Puis dans le fond, plus il va pouvoir déployer son imaginaire dans le texte, c'est certain.
Ben, pour ma part, je considère que peu importe le style, que ce soit du vers ou que ce soit des poèmes très brefs comme Amour debout ou de la prose, je pense que la lectrice ou le lecteur peut être porté par un imaginaire, peut de toute façon être libre d'entrer dans cette textualité-là ou dans cet univers-là, un peu à la manière dont il le souhaite. Par ailleurs, Il y a une narrativité, il y a un fil conducteur, il y a des thèmes qui se dégagent de la poésie. Donc, je pense qu'il faut aussi comme démystifier le fait que un court poème ou qu'une poésie va être quelque chose de complètement farfelu aussi, parce qu'il y a quand même une intention d'écriture. Puis j'ai lu, Alexis, ton recueil ce matin et hier soir.
Oui.
Et pour constater également, en effet, la similarité dans une certaine densité, une espèce de mariage entre une densité puis quelque chose de très sensoriel, et à la fois de la brièveté, où on sent une brièveté dans ton texte ou quelque chose d'un dénuement émotif, mais une densité sensorielle. Donc, c'est à ça que ça sert aussi la poésie, c'est d'amener la lectrice ou le lecteur dans un univers où il y aura une densité, puis pourra suivre quand même une certaine narration, mais en étant libre de se l'approprier de la manière dont il le souhaite aussi.
C'est ça, j'ai l'impression que d'une certaine façon, de façon peut-être un peu paradoxale, même vos deux recueils sont comme un écho l'un de l'autre. En fait, c'est comme deux faces de la même chose, d'une même solitude, d'une même marginalité jusqu'à un certain point. Dans le cas d'Alexis, on parle de gens qui veulent vivre en autarcie, qui veulent se mettre en marge de la société. Tandis que Mélina, toi, tu poses le regard sur ces oubliés d'une certaine façon. Tu essaies de nous les rendre plus présents pour qu'on arrête de ne pas les regarder. Est-ce que c'était important pour vous de donner la parole justement à des personnages que peut-être qui n'auraient pas eu de voix sinon?
Est-ce que ça te parle, Alexis? Ça, c'est comme...
Oui, en fait, voyons, c'est clair que le désir quand on crée des personnages, en tout cas le mien, c'est toujours de créer quelqu'un de très, très singulier, puis quelqu'un avec une voix qui est absolument particulière. Je n'embarque pas du tout dans le trip de faire des personnages ordinaires, là, tous ces récits-là, d'une simple personne comme les autres, des aventures extraordinaires. C'est pas... c'est jamais vraiment ça, mon intention. Puis dans le fond, c'est ça prend des gens spéciaux, puis des gens qui sont vraiment, vraiment dans eux, et des gens intègres comme personnages, si on veut pouvoir s'exprimer d'une voix qui se distingue aussi, même sur le plan formel. Pour moi, ça va ensemble.
Je pense que dans Amour debout, pour ma part, il y a différentes figures, peut-être plus que des personnages qui sont disons définis différemment dans Chien de fusil, par exemple, où on a un nom qui apparaît aussi, Vincent. Alors que dans Amour debout, on parle d'enfants, on parle de gens qui sillonnent des lieux finalement et qui n'ont pas nécessairement de nom. Donc c'est une narration peut-être un peu plus fluide, un petit peu plus qui est sujette à interprétation davantage, mais en même temps, les courts poèmes et puis la dynamique avec l'espace blanc de la page aussi permet de mettre en exergue la marginalité que vivent ces personnages-là et le lien de vitalité à la fin du recueil qui se recrée par ce passage dans différents lieux avec une prise de parole finalement. Et c'est ça, un cri qui est lancé.
Tout à fait. Est-ce que aujourd'hui, dans le monde un peu fou dans lequel on vit, le poète n'est pas le plus grand marginalisé d'une certaine façon?
La marginalité appartient à personne, selon moi. Le ou la poète n'est pas tributaire de la marginalité sociale, mais il peut s'en rapprocher avec sa sensibilité. Parce que j'ai l'impression que souvent la marginalité peut faire peur ou peut créer un sentiment de les gens ont peur de se rapprocher des poches marginales dans la société. Je pense que de plus en plus, on vit dans une société qui crée des exclusions de différents types, que ce soit la pauvreté, que ce soit la marginalité sexuelle, que ce soit la migration ou l'analphabétisme, par exemple. Le poète, effectivement, peut toucher les gens, les lecteurs, les lectrices, en se rapprochant de cette marginalité-là, mais il incarne pas la marginalité lui-même.
Non, c'est ça. Personnellement, je me sens pas du tout marginale. Je suis plutôt extrêmement privilégiée. J'ai une job, je suis en couple, j'ai un enfant, j'ai une maîtrise. Tu sais, ça va très bien mon affaire. Là, je suis pas dans la rue. Je suis vraiment pas. Je suis parfaitement bien intégrée à la société, même si j'ai pu choisir, disons, de d'être travailleur autonome, de pratiquer cet art-là qui est l'art de la poésie. Je le peux parce que j'ai un privilège, en fait, parce que je suis, euh, J'étais capable de choisir, j'étais capable de fixer les paramètres de mon existence, etc. Je suis pas du tout marginalisée, en tout cas de l'extérieur. Peut-être que je vais avoir tendance à m'exclure moi-même volontairement ou à essayer de prendre un point de vue qui va être un petit peu à l'extérieur, mais c'est jamais quelque chose que je subis, c'est toujours quelque chose que je décide de faire parce que justement ça va très bien, en fait.
Ah, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'on se rappelle la première fois qu'on a lu de la poésie? Ou est-ce, disons, le premier poème qui a marqué l'imaginaire, même si c'était enfant, est-ce que c'était à l'adolescence? Quand est-ce que la poésie s'est imposée, finalement, comme langage ou qui a fait une première apparition dans vos vies, finalement?
J'ai écrit des poèmes d'adolescent, des poèmes d'amour poche, là, bien avant d'avoir ouvert un vrai recueil de poésie dans ma vie. Là, ça vient de la chanson, en fait. Ça vient des tunes pop, ça vient de musique plus, etc. Là, sinon, un vrai livre de poèmes que j'ai pu regarder, c'est peut-être les surréalistes là, au baccalauréat. Là, je vais être comme brutalement honnête. Là, ça fait pas longtemps. Puis la première chose qui m'a vraiment marquée, c'est comme Roland Giguère, mettons. Je devais avoir au moins 20 ans.
Moi, je pense qu'on m'a offert mon anniversaire de 15-16 ans, L'homme rapaillé de Gaston Miron, que j'ai mis de côté. Dans lequel il y avait un signet de Schtroumpf ou de Garfield, je me souviens plus. Et puis, au collégial, j'ai fait une présentation du poème « Demain dès l'aube ». Je pense que c'est Victor Hugo.
OK.
Et je l'ai chanté à la guitare.
Wow!
Avec une musique pop, interprétation de musique du groupe britannique Oasis, qui était mon groupe préféré à l'époque. Donc ça a été comme les parenthèses poétiques avant que vraiment je commence à en dévorer à la mi-vingtaine. Là, j'ai 33 ans, donc okay. La poésie est vraiment rentrée dans mon cœur il y a peut-être 8 ans.
OK. Alors je m'en souviens finalement que tu as parlé du cégep, c'était clairement les fleurs du mal en fait. C'est comme... super cliché, là,
mais
les fleurs du mal dans la cour de littérature française, ben oui, c'est ça,
quand même.
C'est un beau début, mais ouais.
Donc, ce premier contact-là des fleurs du mal, déjà, tu sentais qu'il y avait peut-être quelque chose qui t'échappait, mais il y a quelque chose qui venait te chercher en même temps, si je comprends bien.
Ben oui, c'est magnifique, en fait. Ben, l'espèce de figure, la figure du poète maudit, la toxicomanie, la syphilis, la charogne, tu sais, qu'est-ce qu'on... Quoi? Voyons... J'ai le goût de le dire en anglais, mais c'est complètement stupide. Qu'est-ce que je pourrais bien ne pas aimer là-dedans à 19 ans, alors que justement, je sors de mon secondaire, j'ai l'impression d'avoir été seule tout ce temps-là. J'arrive... Mais c'est ça, ben, en fait, la découverte des livres, c'est ça que ça suscite. Peu importe si c'est en vers ou si c'est en prose, là, c'est de sentir qu'il y a une parole amie, là.
Mm-hmm.
Quelqu'un qui parle directement à soi.
Tout à fait.
Ouais. Ça a commencé là, à peu près.
Est-ce que vous êtes de grandes lectrices?
Comparativement à toi, Lucie, je ne sais pas. mais je lis beaucoup, oui. Je lis beaucoup et je lis de tout en termes de genre. Puis j'ai souvent plusieurs bouquins d'ouverts en même temps, là. Ouais.
Alexis?
Moi, je suis assez pareil.
Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont habité ou qui continuent de vous accompagner depuis toutes ces années? Des auteurs auxquels on retourne et puis dont on ne se lasse pas?
Certainement. En roman, moi j'aime beaucoup, je suis pas très originale, là, j'aime beaucoup Hemingway, j'aime beaucoup Kerouac, McCarthy, tous ces univers un peu sombres et virils. Je suis très attirée par ces univers-là. En poésie, ben, c'est très, très... moi, je suis une découvreuse, je suis très, très curieuse, donc... Je vais aller autant vers des collègues à la Peuplade, des nouveaux auteurs ou plus ou moins accomplis. Je vais autant lire des gens qui vont plus utiliser le slam. Je suis une lectrice aussi des éditions de l'Écrou. Je vais aller vers Denise Desautels aussi, qui est une grande poète québécoise. Donc moi, j'ai aucune appréhension. Je me jette, puis j'aime ou j'aime pas, c'est tout.
Alexis?
Ben moi, je lis beaucoup de choses, mais si on veut vraiment s'en tenir aux trucs qui m'influencent pour vrai et depuis longtemps, là, je vais citer mon cher Dostoïevski, les frères Karamazov, puis pour tous ces personnages-là qui sont les esclaves de leurs émotions puis qui vont carrément détruire leurs existences sans même le vouloir, juste parce qu'ils sont poussés par je sais pas trop quelle pulsion de mort. Là. C'est comme ça aussi dans Les carnets du sous-sol. Là. Je sais pas si vous avez lu ce livre-là. Le gars est complètement isolé, il est pas capable de survivre socialement. Puis là, c'est comme son conventum de secondaire, version 19e siècle, en Russie. Puis il débarque là. Il va complètement s'humilier. Il sort de là complètement. Là, il est fou. Il rencontre une prostituée, tombe en amour avec elle. Bref, il ruine son existence. C'est comme, c'est super russe. C'est super tragique. Puis Beckett, Samuel Beckett pour la langue. Mettons, là, si j'ai à nommer deux grosses influences.
Des influences qui, en fait, qui ne surprennent pas tant que ça. Quand on a lu ton recueil, il y a le côté, effectivement, Dostoïevski, il y a le côté de l'immersion de la nature. On sent le froid, le vent. Il y a quelque chose qui passe à travers tout ce texte-là que tu nous as proposé. Et puis, justement, le travail de déconstruction de la langue est peut-être pas aussi excessif que chez Beckett, mais il y a quelque chose, on voit quand même que tu veux jouer avec les fragments, même en les unifiant. Malgré que tu fais deux types, finalement, de poèmes dans ce recueil-là, des poèmes, disons, plus traditionnels, d'une certaine façon, plus courts, ramasser des vers, puis d'autres en prose, on sent quand même toujours ce souffle-là qui s'immisce. Justement, pourquoi, dans ton recueil, as-tu choisi d'adopter les deux styles dans le même recueil, plutôt que de faire soit juste la prose, du vers en prose, ou maintenant des petits fragments?
Ben, ça dépendait de ce que j'avais à dire, mais là, honnêtement, ça fait un peu long, ça fait un petit peu longtemps. Je suis comme moi dans mon processus, donc il faudrait vraiment que j'y pense. Là. Parce que j'avais le goût à la fois de peut-être, dans le fond, d'arrêter l'œil sur un tout petit moment, là, d'écrire un instant le plus bref possible, et aussi le désir de faire des trajectoires. Il y a beaucoup de récits dans ce livre-là, de marches dans le bois, de fuites. C'est drôle parce que tu disais que tu avais des personnages dans ton livre qui sillonnent des lieux, là, c'est un peu la même chose dans le fond. Fait que quand le fragment se rallonge, généralement c'est qu'ils sont en train de marcher, ils sont en train de parcourir quelque chose, ils sont en train c'est le travelling, mettons. Le peut-être le parallèle cinématographique marche pas partout, mais même c'est ça que je suis capable de dire présentement.
Ben c'est quand même l'impression que j'ai une des impressions que j'ai eues aussi en lisant. Peut-être que les poèmes plus courts permettent de s'arrêter sur une photo. Si on veut continuer avec l'expérience
cinématographique. Sous un arbre, sur une roche, au bord de l'eau, et puis que...
Et puis il y a une question, dans le fond, je regarde ça en ce moment, là, puis il y a vraiment une affaire de perspective. C'est assez abstrait, mais je suis un peu obsédée par la verticalité puis l'horizontalité, là, mettons, là, puis les poèmes en vers parlent souvent d'ascension ou du fait de creuser, alors que les proses sont vraiment plus horizontal, justement. C'est plus fuite vers l'avant. Je sais pas si c'est
intéressant. C'est intéressant parce que même juste visuellement sur la page, ça donne cette impression-là, là, forcément, d'avoir toute une série de lignes. On voit ça comme ça, tandis que l'autre, ça fait comme un volume
puis,
sur la page.
Puis le regard du personnage dans son livre, c'est comme s'il voulait vraiment transformer des fois comme la réalité, je sais pas, ou la vision des choses comme les herbes en arbre. La pierre en roc.
Moi, j'étais en train de lire Deleuze comme une folle quand j'ai écrit ça, puis ça paraît beaucoup, là, tu sais, le fameux « le devenir guêpe de l'orchidée », puis « le devenir animal », puis « le devenir enfant », tu sais, c'est vraiment à grandeur du livre. Ça fait deux fois que je le dis en entrevue, puis je trouve ça très drôle. C'est comme vraiment hipster universitaire, là. Vous allez pouvoir couper ça si vous voulez. Je suis comme encore en train de dire ça.
Alors, l'écriture, si on s'en va un peu dans le travail au quotidien qui a mené à vos recueils, aussi, évidemment, vous continuez d'écrire des poèmes depuis ce temps-là. Mélina, je sais que tu es en préparation pour un deuxième recueil éventuellement. Est-ce que s'il y a un moment qui nous éblouit, puis il faut écrire sur le poème, et puis après ça, quel genre de travail ou de retravail cela implique, finalement?
Bien, de mon côté, c'est très physique, le travail d'écriture, dans le sens où ça se manifeste de manière physique avant de se manifester sur le papier ou à l'ordinateur. Souvent, c'est une écriture spontanée desquelles je vais en rire, finalement. Puis il y a des fragments ou des éléments qui vont paraître porteurs, là, tu sais, sensibles, intéressants. Puis à partir de ça, là, je vais travailler le texte.
Donc, de façon implacable, 50 fois, 10 fois, ou est-ce que, comment, jusqu'où ça va ce polissage, ce peaufinage, finalement?
Je pense que ça dépend vraiment de l'élan de la création. Dans Amour debout, ça a été très, très, très poli. Aussi parce que j'étais à mes premières armes, puis j'ai bénéficié beaucoup d'aide aussi dans l'écriture. J'ai été dans le programme de l'UNEC, l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, avant, donc un programme d'accompagnement à l'écriture, avant d'écrire, de terminer « Amour debout ». Je pense que ces sujets à évolution, la manière d'écrire, puis le prochain recueil, s'il y en a un, aura été écrit d'une différente manière que celui-ci.
Alexis, travail...
Moi, j'écris beaucoup, 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 beaucoup de mots au début. En fait, c'est à peu près ça. Là. Je vais me mettre en mode, vraiment juste en mode logoré. Mm-hmm. Je vais chercher le ton, puis la manière d'écrire le plus rapidement possible. En fait, je vais réfléchir très, 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 très longtemps, puis après, je vais faire un premier jet le plus vite que je peux. Sans réfléchir, sans effacer, sans rien. Puis après, le travail, c'est d'effacer. C'est comme élaguer un arbre, le ton, là. La fille a fait des images forestières. Oui, donc c'est ça. Je prends ma hache, puis j'enlève les petites branches qui dépassent. Sans blague, je retranche des mots, j'enlève tout ce qui est pas utile. Puis à un moment donné, je finis par en arriver à mon squelette. Là. Puis j'ai fait ça jusqu'aux épreuves. En fait, aux épreuves, j'étais encore en train d'enlever. Ok, ce mot-là, il est pas indispensable. On le sort.
Donc de façon implacable. Là.
Oui.
On peut pas dire que tu es si attaché que ça à tes mots. Tu es capable de t'en détacher de cette
façon. C'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui reste sur la page. C'est sûr que l'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on écrit le truc, c'est-à-dire le focus, est super important. On peut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut être très concentré puis très précis. Mais après, ces émotions-là, les choses qu'on ressent quand on écrit n'ont pas de valeur. Elles ne sont pas sur la page. Puis l'important, c'est le texte qui reste. Dans le fond, c'est pour ça aussi que c'est important de mettre ça dans les tiroirs puis d'attendre quelques mois avant de revenir pour retravailler. Après, ça se voit instantanément. Mm. Ce qui était juste comme de l'inspiration puis ce qui était juste comme du romantisme puis que dans le fond, on veut pas voir dans nos livres.
Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Alexis Morin, pour le recueil Chien de fusil chez
Cartani.
Et Mélina Bernier pour Amour debout aux éditions de La Peuplade. Alors, au plaisir de lire un deuxième ouvrage de l'une ou l'autre dans un avenir rapproché.
Merci beaucoup.
Merci, Lucie.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était Les actualités littéraires dans le monde francophone, une émission de CKCU Literary News, diffusée en continu et en différé, telle qu'indiquée sous CKCU Literary News dans Google. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter, sous CKCU Lit News, en un seul mot. Merci et au plaisir de vous lire!